Après ce tableau général qui donne une toile de fond, je vous propose de regarder de plus près une certaine gamme de valeurs, les valeurs religieuses des jeunes. Et là, j'ai des chiffres plus frais pour appuyer mon propos, puisqu'un sondage sur ce sujet a été mené par Opinionway et La Croix cette année au printemps. Alors, c'est toujours les années de JMJ qu'on fait ce sondage, hein. C'est toujours les années à JMJ que la Conférence des évêques de France ou La Croix commande ce type de sondage juste avant les JMJ pour pouvoir alimenter les publications de l'été sur les JMJ, de pouvoir les doubler par une réflexion de fond et pas seulement par de l'événementiel. Donc, c'est bien, tous les 2-3 ans, on est sûr d'avoir un sondage en France sur ce sujet-là. Alors, Dieu dans tout ça, eh bien, il est plutôt présent pour les jeunes, et plutôt plus présent. Pour 46% des jeunes de 18 à 29 ans, l'existence de Dieu est certaine ou probable. C'est beaucoup plus que l'ensemble de la population française, toutes classes d'âge confondues. Toutes classes d'âge confondues, c'était à 38% des Français qui disaient croire en l'existence de Dieu, selon une enquête réalisée en 2015 pour la Conférence des religieux et religieuses de France. Donc, une différence quand même très très nette, hein. 8 points de pourcentage, c'est quand même très significatif. Il ne s'agit vraisemblablement pas d'un effet d'âge, comme si à toute époque donnée, la jeunesse laissait plus de prise à la l'âge en faisant abandonner la croyance en l'existence de Dieu. Non, il semble que ce ne soit pas un effet d'âge, mais un effet de génération. Il y avait eu une rupture entre les générations nées dans le climat post-68 et jusque au milieu des années 80, avec leurs aînés qui étaient nés juste après-guerre et qui étaient très majoritairement croyants. Ceux qui étaient nés de 68 à 85 avaient marqué une rupture très très importante par rapport à ça. La rupture, elle est bien pour les générations post-68 de ne plus croire en Dieu de manière aussi massive et générale. Mais cette rupture ne s'est pas accentuée. Au contraire, le fossé s'est même légèrement résorbé avec des jeunes plutôt plus croyants que les générations antérieures, du moins sur le simple fait de la croyance en Dieu. Si on regarde maintenant l'appartenance confessionnelle, 53% des jeunes affirment avoir une religion, et c'est le catholicisme à 42%. Et là encore, les chiffres sont un peu au-dessus de la moyenne de la population française, tous âges confondus, où on a plutôt des chiffres qui sont à 41, 40, 41, vous les aimez bien, c'est la marge d'erreur pour les catholiques, et puis pour la croyance, pour le fait d'avoir une appartenance religieuse un peu plus marquée en dessous, plutôt 48, 49%. Ces 42% de jeunes qui se disent catholiques, c'est largement au-dessus de la proportion de jeunes pratiquants. Cette proportion pour la tranche des 18-30 ans, qui est étudiée dans les instituts de sondage divers et variés comme un critère pour analyser le vote politique ou la consommation de lessive, par exemple, cette proportion de la tranche 18-29 ans, ce que les instituts de sondage appellent les messalisants, ceux qui vont à la messe au moins une fois par mois, cette proportion pour la tranche 18-29 ans, elle est de moins de 5%. En fonction des instituts, c'est 2 à 3% de la classe d'âge 18-29 ans dans les enquêtes d'opinion. C'est-à-dire, je fais une petite parenthèse, hein, que les jeunes catholiques qui vont à la messe aujourd'hui sont aujourd'hui en dessous du seuil de détection statistique. Parce que 2%, c'est une marge d'erreur. Donc dire 2% d'une classe d'âge, c'est comme dire 0%. Cela va avoir une incidence importante, c'est un euphémisme, sur le visage que l'Église présentera en France dans 10, 20 ou 30 ans. Parenthèse dans la parenthèse, ce chiffre de 2 ou 3% des jeunes messalisants, croyants et pratiquants est naturellement très bien connu dans les états-majors politiques. Alors les déclarations de période électorale qui semblent flatter les cathos dans le sens du poil ne sont jamais la marque chez ces partis d'un projet d'avenir qui intégreraient spécifiquement dans leur vision de la société les cathos aujourd'hui jeunes ou les racines chrétiennes de la France ou de l'Europe. Je ferme cette parenthèse et je ferme ma parenthèse sur ce taux de 2 à 3%. Dit catholique, il y a d'autres formes de pratiques religieuses qui, pour eux, sont des analogues d'une appartenance confessionnelle que les instituts de sondage se contentent pour l'instant d'analyser en termes de fréquentation des assemblées dominicales. 52%. Ah oui, alors là, les chiffres étaient illisibles, donc je vous l'ai dit parce que je ne pouvais pas faire d'image avec ça. 52% disent prier pour les jeunes qui se déclarent avoir une religion. Alors 52% disent prier contre 40% pour tous les jeunes, et au sein de ces 40% de jeunes, 25% même chez les agnostiques et les athées. 26% des jeunes catholiques disent participer à des rassemblements comme les JMJ ou des pèlerinages. Pour le total des jeunes de la classe d'âge, c'est 18% et pour les athées, c'est 9%, toujours chez les jeunes. 15% cherchent des renseignements sur leur religion sur Internet. C'est un petit peu moins, et c'est curieux, les catholiques sont un peu moins doués sur Internet, visiblement, parce que dans leur classe d'âge, c'est plutôt entre 17 et 20%, selon les confessions diverses et variées, et puis 13% chez les athées. 12% font des retraites, à chalet peut-être, 8% pour toute leur classe d'âge et 4% pour les athées. C'est assez normal, ça c'est bien un truc de catho quand même. Mais vous voyez que même avec tous ces chiffres de pratiques religieuses diverses et variées, on est largement au-dessus de mes 2-3% de pratiquants chez les moins de 30 ans. Donc en fait, on retrouve là une déclinaison de l'individualisation des valeurs dans le champ religieux. L'appartenance à l'institution n'est pas appréciée par ces jeunes selon les critères que l'institution donne elle-même pour juger de l'appartenance sociologique, la fréquentation de la messe. C'est l'autonomie du sujet ici qui prévaut. Je peux me dire catholique si cela me plaît, peu importe que je ne rentre pas dans les critères que l'institution me propose. Je fais mon marché dans les pratiques qui me conviennent. Au sein de l'Église catholique, pour les jeunes pratiquants, la même attitude se retrouve. Alors qu'autrefois, les appartenances aux différentes tribus de l'Église étaient bien marquées, hein, les tradis, les classiques pas intégristes, les cathos de gauche, tout ça, ces frontières aujourd'hui sont de plus en plus brouillées. Je voyais apparaître en aumônerie il y a 3 ou 4 ans quand j'étais en aumônier de plus en plus de tradismatiques qui fréquentent aussi bien la messe en latin, soit dans la communion avec Rome, soit en dehors de la communion avec Rome, et en même temps la communauté de l'Emmanuel avec le forum des jeunes à Paray-le-Monial qui est un incontournable de cette génération. Donc deux genres très très différents d'expression et d'expérience de la foi, même si, dans un cas comme dans l'autre, dans ces deux types de lieux, il y a un certain classicisme de la prédication et de la théologie, je fais vite, hein, une certaine rigueur qui correspond bien à un désir d'autorité et de cadre que cette génération. J'ai besoin de cadre et d'autorité. Néanmoins, ça dessine quand même la figure d'une génération pour qui l'appartenance à l'Église est très fluide. Hein, et ça, je pense que c'est un des gros enseignements de cette étude. Dieu est une valeur, la religion est importante pour les jeunes, mais comme je veux, comme ça me convient. Et pour le catholicisme, ça veut dire, en gros, beaucoup moins de pratiques sacramentelles, mais une vie spirituelle réelle, avec la prière notamment, qui est la pratique spirituelle la plus commune de cette tranche d'âge, la plus commune chez les cathos. J'en reviens à l'ensemble des jeunes de la tranche 18-29 ans, regardant comment ils perçoivent en général, les religions pour en tirer un deuxième enseignement de cette étude qui, lui, me paraît plus inquiétant. La moitié des jeunes Français estiment que les religions sont facteurs de guerre et de division. Alors, on peut trouver ce chiffre terrible, mais on peut aussi le nuancer. D'abord, par le fait que cette enquête date du printemps, quand même contexte état d'urgence, attentat, etc., discours politico-médiatique aussi, bref. Mais je nuance aussi ce constat par le fait que cette représentation des religions comme fauteuse de troubles et comme dangereuse pour la paix est profondément enracinée dans l'imaginaire français depuis les guerres de religion et surtout, plus proche de nous, depuis la laïcisation de l'école au XIXe siècle. Hein, vous entendez n'importe quel éditorialiste qui sort des énormités sur les religions, prises en paquet, hein, comme un tout, au mépris d'un tout petit peu de culture générale. Voilà. Donc on peut se désoler de ce chiffre, mais en même temps, ça correspond quand même à des choses qui sont présentes depuis longtemps dans notre société. Et puis, en l'absence de tendance sur le temps pour cette classe d'âge donnée, je ne vais pas trop le surinterpréter, ce chiffre. Enfin, quand même, 50%. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait pour ça ? Corrélativement à ce résultat, pour 44% des sondés, donc toujours mes jeunes de 18 à 29 ans, assumer sa croyance en France devient difficile. Et ce chiffre monte à 52% pour les sondés non-croyants, qui estiment donc qu'il est difficile pour leurs compatriotes d'être croyants en France. Plutôt positif qui perçoivent un peu les choses. Alors aussi, dans les surprises de ce sondage, il y a aussi des répartitions nouvelles entre sexes. Désormais, c'est les jeunes hommes qui sont plutôt plus croyants que les jeunes filles, en particulier chez les catholiques. Alors que depuis le XVIIIe siècle, les femmes sont considérées comme plus religieuses que les hommes. Chez les 18-30 ans, les jeunes femmes déclarent moins que les hommes avoir une religion. 51% des femmes, 55% des hommes. Sur la question de l'impérissa, plus nombreux à la trouver importante que les femmes. 32% des hommes pour 38% des femmes. Pour 28% pardon, des femmes. Et de plus, autre enseignement, la géographique, 55% des jeunes en Île-de-France sont croyants. Et ça, c'est largement supérieur aux chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Et c'est très étonnant parce que traditionnellement, l'Île-de-France était plutôt une région pas religieuse. Voilà. Bon. Donc, je vous propose quand même de retenir que le religieux est là, la religion revient, mais pas sur le mode attendu. Pas sur le mode attendu. Et les institutions religieuses vont se trouver bousculées par les jeunes croyants. C'est peut-être ce qu'on peut retenir de cette enquête toute récente. Et cela va se traduire notamment par deux champs que je vais aborder maintenant, parce qu'ils m'intéressent. Le rapport à la vie religieuse chez les catholiques, et la vie consacrée, donc la vie religieuse, la vie consacrée dans le regard des jeunes. Alors là, c'est le religieux qui parle et qui parle dans un monastère de sœurs. Et puis par ailleurs, le souci des jeunes de concilier vie professionnelle et croyances religieuses. Et là, c'est l'enseignant en école d'ingénieur qui parle. Du côté de la vie religieuse, de la vie consacrée, une enquête étonnante réalisée pour le compte de la Conférence des évêques de France en décembre 2015, c'est donc assez récent, auprès de la population, et puis parallèlement auprès des jeunes consacrés de moins de 40 ans, avait montré que près de 1 Français sur 10 avait déjà envisagé la vie religieuse. 1 sur 10. Vous imaginez les noviciats que ça ferait si tout le monde donnait corps à cette idée ? 1 sur 10. Et cette proportion augmentait nettement dans les classes d'âge plus jeunes. 14% chez les 25-34 ans et 15% chez les moins de 25 ans. Donc au-delà des 10% de la population française globale. Dans un contexte de sécularisation, les plus jeunes ont une vision et une appréhension de la religion bien différente du religieux de leurs aînés. Donc, on comprend bien pourquoi ils ont aussi un autre regard et un autre rapport à la vie religieuse, à la vocation. La bonne surprise de ce sondage, qui montre que les moins de 35 ans se posent davantage la question d'une vocation à la vie religieuse, est probablement à mettre en lien avec ces nouvelles formes de religiosité et de spiritualité. Ces nouvelles formes de trajectoires religieuses, dans un contexte de soif spirituelle où les croyances sont minoritaires ou en tout cas moins visibles, cela passe davantage par une expérience personnelle qui du coup produit une plus grande ouverture à la question de l'engagement et de la vocation. Forcément, si on est plus loin de l'institution, elle apparaît moins poussiéreuse. On peut se poser plus librement la question. Cela dit, comme justement ils sont aussi plus loin des institutions, ils vont avoir des attentes qui ne sont pas forcément bien situés. Et ces jeunes auraient bien besoin d'un accompagnement tant leur perception de la vie religieuse est décalée de la réalité. On observe sur décalage le grand public, et c'est accentué chez les jeunes, et ce que les jeunes consacrés de moins de 40 ans disent eux-mêmes de leur vie. Et ils ont été interrogés dans la même enquête de décembre 2015. Ce qui est le plus frappant, c'est que parallèlement à leur perception assez positive et forte de l'engagement radical des religieux, les jeunes voient la vie religieuse comme encore plus déconnectée des réalités que la moyenne des Français. En effet, 77% des 18-24 ans la voient comme une manière de fuir le monde actuel. Donc 77% chez les 18-24 ans, alors que c'est seulement 63% chez les Français dans leur ensemble, et puis 7% des jeunes consacrés. J'aimerais bien rencontrer les 7% de jeunes consacrés qui ont pu dire une chose pareille. Donc les jeunes religieux et religieuses qui se perçoivent comme modernes à 66%, proches des réalités à 93%, s'affrontent à une image générale de la vie religieuse dans le grand public comme hors du monde et déconnectée de la réalité. Une vie qui n'est pas moderne pour 69% des gens. Et encore plus près de 75% pour les jeunes, par exemple. L'autre point fort de décalage entre la perception qu'ont les religieux d'eux-mêmes et l'image qu'en a le grand public est celui de la liberté. Seulement la moitié des Français pensent que c'est la personne qui s'engage dans la vie religieuse et qu'elle est libre quand elle le fait. Alors que 99% des consacrés vivent leur engagement comme un choix libre. Cette enquête met donc en lumière un enjeu très important d'expliciter, voire de démystifier ce qu'est la vie religieuse pour aider à une meilleure compréhension de cette vocation qui pour beaucoup reste mystérieuse et éloignée de leur réalité. Ces chiffres indiquent le besoin de rendre visible et surtout plus lisible ce qu'est réellement la vie religieuse selon deux axes importants, le rapport à la liberté et le rapport au monde. Il faut donc communiquer, expliciter davantage combien la vie religieuse est un vrai chemin de liberté qui rend les consacrés toujours plus libres et combien leur vie n'est pas hors du monde, mais est au contraire un engagement radical pour le monde, qui les met au cœur des réalités de la société et non pas sur une autre planète. Autre sujet sur lequel je vais être très très bref, c'est la religion dans la vie professionnelle, la religion en entreprise. Avec tout ce que je dis d'un rapport nouveau, alors là c'est illisible pour vous, je suis désolé, je vais aller très très vite là-dessus alors. Avec tout ce que je vous dis d'un rapport nouveau aux religieux chez les jeunes décomplexés, il n'est pas anormal de voir le fait religieux revenir lui aussi dans l'entreprise avec son lot de questions, par exemple sur les aménagements raisonnables d'un poste de travail pour permettre à un salarié l'observance de pratiques religieuses. Ce fait est assez bien documenté. Il y a une enquête qui est faite tous les 3 ou 4 ans par le CEFRELCO, le Centre d'études du frais religieux contemporain, dont je connais bien le fondateur, et qui dit cela beaucoup, que de plus en plus de managers sont confrontés à des demandes de ce type. Évidemment, le fait majeur et qui apparaît et qui est dans la tête de tout le monde, c'est évidemment le port du voile au travail, des demandes d'aménagement d'une salle pour une salle de prière pour des musulmans. Mais ce n'est pas seulement ça, ça peut être aussi, dans un environnement qui n'est pas en costard-cravate, le fait de porter des signes religieux beaucoup plus visibles, un sweat à capuche avec une grande croix à l'arrière par exemple. Comme on voit beaucoup maintenant, hein, les aumôneries étudiantes ont cet outil-là comme moyen de communication. On porte un gros sweat avec un message plutôt sympathique et décalé, mais qui affiche clairement la couleur d'un engagement et d'une foi en Jésus-Christ. Et ça, tout d'un coup, quand ça vient dans un open space, sur un plateau, dans une entreprise qui fait du développement informatique, hein, une grosse SS2I qui fait du développement informatique, sur un plateau, ça peut poser des questions. Ça peut poser des questions. Quel est le champ d'application de la laïcité? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je parlerai plus tard de la laïcité aussi, mais ça revient avec beaucoup, beaucoup de questions, et ça fait partie, moi, pour ma part, de mon enseignement en école d'ingénieur, aussi que de démystifier complètement la loi de 1905 sur la laïcité et de leur dire qu'est-ce qu'on fait ou ne fait pas en entreprise face à ce type de demande. Et que notamment, il n'y a pas lieu de bannir. Ce n'est pas un bâtiment public, donc il n'y a pas lieu de... etc. etc. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas détailler ces différentes demandes qui étaient listées dans ce tableau, parce qu'il me reste à peine 5 minutes, et c'est le temps de conclure. Donc. Alors, en conclusion, je vous présente donc des jeunes qui sont peut-être un peu étonnants. Individualisés et non pas individualistes, inquiet de l'avenir, réclamant de l'ordre, mais se désengageant des institutions et se repliant sur des solidarités de proximité affective ou géographique, tout en ayant une soif spirituelle et d'absolu qui se traduit par un rapport très décomplexé aux religieux, ou en tout cas beaucoup plus ouvert par rapport à ce que les baby-boomers auraient pu léguer comme héritage à notre société. On se souvient du fameux mot d'André Malraux, « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Et je pense que ce n'est pas tout à fait juste. Je dirais plutôt que peut-être le XXIe siècle sera celui de l'identité. Et la religion est une des composantes de cette identité. En tout cas, c'est très clairement le cas pour les jeunes qui seront dans 10 ans ou 20 ans nos cadres, patrons, artistes, intellectuels, hommes politiques, peut-être. En fait, pour être tout à fait juste avec Malraux, il faudrait ajouter qu'on déforme toujours sa citation. Il n'a pas dit « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Il a dit « Le XXIe siècle sera mystique ou ne sera pas ». Et là, c'est plus juste, et je pense qu'il avait vu très très juste en disant ça. La mystique, c'est cette composante éminemment personnelle de la religion, la partie de la religion qui est complètement débarrassée de l'institution, qui est ineffable, indicible, intérieure, et qui se recompose selon mon expérience personnelle. Donc je crois vraiment que Malraux, avec cette prédiction sur le mysticisme, avait vu juste pour notre temps. L'individualisation des mœurs chez les jeunes, qui réinvestissent la religion, ou plutôt une forme de religiosité sans institution, conduit notamment à ce qui sera sans doute un nouveau mysticisme, bien loin de nos représentations actuelles du religieux et du fonctionnement de nos institutions religieuses. Et, entre parenthèses, je suis d'ailleurs très très frappé ces dernières années par l'accélération de l'exculturation de la foi chrétienne. C'est-à-dire, elle n'est plus du tout une référence largement partagée dans la société avec toutes ses implications culturelles, juridiques, sociales, etc. Ça devient vraiment un champ de l'inconnu. J'étais il y a quelques mois à la cathédrale de Strasbourg, l'horloge astronomique, tout le monde regarde l'horloge astronomique, et puis il y a dessus affiché, enfin, écrit, peint comme décor, le tétragramme, donc les quatre lettres qui disent le nom de Dieu, Yahvé, en hébreu. Je prenais des photos du pilier des anges qui était derrière, et donc derrière moi, j'entends deux jeunes visitant ça qui discutent et qui disent « Ah tiens, regarde, là, il y a un truc écrit, c'est écrit en juif. » Non, non, non. D'où ça sort? D'où ça sort? J'ai donné au mois de janvier dernier comme examen, dans l'examen que je faisais passer à mes élèves ingénieurs, je leur donnais à analyser et à commenter la une de Charlie Hebdo pour les anniversaires de leur attentat. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette une, en noir et blanc, un barbu avec un triangle sur la tête, au milieu du triangle, un œil, barbu blanc chevelu, en tunique avec des sandales, un fusil en bandoulière, s'éloignant avec sa robe tachée de sang, et derrière, hors cadre, on voyait juste une main qui dépassait d'un cadavre au sol. Et ce titre, un an après, l'assassin court toujours. Et je leur disais, qui est ce personnage sur l'affiche? Dites-moi qui c'est. Et puis, analysez le message porté par cette une. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai eu une petite moitié de ma promo de 100 élèves qui m'a correctement dit que c'était un dieu des monothéismes, représentation héritée du christianisme avec un dieu le Père, la Trinité, tout ça et de ça. J'en ai eu un tiers qui m'a dit c'est Abraham, c'est un imam, c'est Jésus, c'est Moïse, c'est Mahomet, c'est enfin, etc. Et puis un petit quart, pour faire vite, qui m'a dit ce type, c'est le patron de la secte des Illuminati. Donc la théorie du complot, hein, je ne vais pas rentrer dans les théories du complot qui fleurissent sur Internet, mais pour ces élèves-là, identifiés à cause du triangle et de l'œil qu'on retrouve notamment dans la franc-maçonnerie aussi, sur les billets de banque américains, etc., se montre toute une théorie du complot, d'un complot judéo-maçonnique pour faire court, qui régente l'ordre mondial et qui était à la source de tous nos maux aujourd'hui. Et voilà, et eux, ils me disaient que c'était ça. Et ils me disaient, d'ailleurs, c'est bien eux qui ont orchestré les attentats de Charlie, parce que Charlie, c'était des juifs, etc. Alors, je vous passe les trucs absolument innommables que j'ai eus sur ces copies. Enfin, voilà, l'exculturation, alors que quand même, cette représentation d'un dieu le père barbu, enfin, c'est quand même très commun, ce triangle avec l'œil, enfin, tous nos hôtels, tous nos maîtres-hôtels baroques hérités de la contre-réforme longs au fronton, enfin, bon, bref. Pour revenir au mysticisme dans la citation de Malraux, je pense aussi que l'attrait que peut exercer l'État islamique, l'attrait qu'il exerce sur certains jeunes, a des caractéristiques de ce mysticisme, un désir d'absolu, de dépassement et de don de soi au nom d'une cause plus ou moins bien habillée d'oripeaux religieux. Mais ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps sur la radicalisation, après nous avoir laissé un petit temps d'échange de l'ordre de 15 minutes. Je vous remercie.